la brise dans vos cheveux. Regarde ma sœur, je t'aime d'amour, je suis les larmes de tes yeux.
Extrait de Désespérément Optimiste, voilà, millésime 2020 pour Mr. Matt, qui est en train de programmer le prochain album pour très bientôt. On poursuit avec le disque du mois, et on est déjà arrivé dans la deuxième heure de ce 1093e Sweet Home Chicago. Donc tout à l'heure, on aura notre invité, Monsieur Mike Green, Michael J. Green. Je vous rappelle que si vous avez des questions pour lui, vous pouvez les poser directement sur le Facebook Sweet Home Chicago. Voilà, chose dite pour, bien sûr, sur le fait que nous sommes en direct. Voilà, c'est le 666, et c'est Sweet Home Chicago jusqu'à 15h, qui vous propose également le disque du mois, Selwyn Birchwood, ce superbe album qui s'appelle Living in a Burning House chez Alligator Records. Voici Revelation.
Just the devil's breath on the lips. Revelation.
Un album absolument sublime qui s'appelle Living in a Burning House chez Alligator Records, monsieur Selwyn Birchwood, qu'on va découvrir, dont on va découvrir les autres extraits dans les prochaines émissions, les 20 et 27 février. Il y en aura quand même un en fin d'émission. Mais là, voici place maintenant à notre invité. On va avoir tout de suite un petit extrait de sa discographie récente. Ça s'appelle Viola Blues, monsieur Michael J. Green.
Down. Me and my Nashville bound.
Voilà, c'est un enregistrement tout récent de Mike Green qui s'appelle Viola Blues. On en découvrira d'autres tout à l'heure. Mais en attendant, voici Mike Green au téléphone. Hello Mike, comment ça va ?
Salut Marc.
On va essayer d'améliorer un tout petit peu le son. Je ne sais pas si c'est possible. On va juste tourner des petits boutons. Et puis,
voilà. C'est le téléphone. Hein.
C'est le téléphone, on va dire ça. En tout cas, on t'entend bien.
Bon, ça va alors.
Alors, Mike, on va parler de tes débuts, on va parler de ton actualité, on va parler de tes projets également, mais j'aimerais d'abord que tu nous fasses un petit point météo. Tu te trouves où actuellement ? Chez toi, dans le sud de la France, c'est ça ?
Oui, c'est ça, je suis chez moi. C'est entre Nyon et Valréas, à la limite de la Drôme et le Vaucluse.
Voilà, donc là où il fait toujours beau, peut-être sauf en ce moment, j'ai envie de dire quand même.
Ben écoute, il y a un grand soleil, mais il y a un gros Mistral aussi.
Ben oui, le Mistral, forcément, hein, on est dans le sud-est. Là, ici, nous, on est en Normandie, puis il fait toujours très, très beau, plusieurs fois par jour, comme tu le sais.
Oui.
Mike,
sais que j'ai habité 4 ans en Normandie quand j'arrivais en France.
Mais je ne savais pas ça.
Ah oui, j'étais à côté de Rouen.
Ah d'accord, ben on devait être voisins sans que je le sache, effectivement. Alors quand tu dis au début, effectivement, on va revenir au tout début, tu es né... dans les années 50, hein, c'est ça, sur New York, tu es américain d'origine, Mike. Est-ce qu'on dit Mike Green pour le nom de la scène ou est-ce qu'on dit Michael J. Green pour l'état civil ?
L'état civil, c'est Michael J. Green et puis Mike Green, c'est pour la scène parce que je trouvais que c'était trop compliqué pour les Français de dire Michael.
Surtout...
correctement. Alors je dis appelle-moi Mike, c'est plus simple.
Surtout qu'il y a un J et un G et que vous avez la fâcheuse habitude, vous les Américains, d'inverser J et G.
Je dirais la même chose pour vous. Quand vous dites I'm very hungry,
oui,
faut dire que vous avez faim, et un very hungry pour dire que vous êtes fâché.
Ça me rappelle mes leçons d'anglais en 6e, effectivement. Alors, Mike Green, on va dire Mike tout au long de cette interview, tu apprends la musique tout jeune, ben, grâce aux stations de Radio Noire de Harlem et du Bronx qui te font écouter du blues et du gospel. Les stations de Radio Noire, c'est des choses qui n'existent plus maintenant, c'est des choses que tu as connues hein, dans les années 60. Alors, on était en pleine période du post- post-apartheid américain, quoi, c'est ça ?
Post-apartheid, c'est une figure.
Oui, c'est un raccourci.
Ça existe toujours, malheureusement, mais bon, il y a eu une loi qui s'est passée en 64,
oui,
qui condamnait ça, mais bon, comme tu sais, ça n'a pas changé grand-chose.
Non, ça n'a pas empêché l'assassinat de Martin Luther King, par exemple, en 68,
ouais.
Effectivement, et puis...
plein d'autres.
Et en fait, très jeune, la politique américaine, ça ne te convient pas. Et à cause de la guerre du Vietnam, tu quittes le pays carrément à l'âge de 19 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui. Le jour de mes 19 ans, je suis parti. Oui.
Incroyable. Alors, on précise qu'à 19 ans, aux États-Unis, tu n'étais pas majeur ?
Si.
Si, quand même ? Si.
Enfin, je ne sais plus. Je crois que je n'avais pas encore le droit de voter. C'était à 21 ans encore, voilà, là-bas.
Et donc, qu'est-ce qui te décide à partir en Europe ? Tu as dit tout à l'heure que tu étais en France, mais tu n'as pas fait que la France. Pourquoi l'Europe ?
Ben, écoute, tous mes amis sont partis au Canada et il y a une raison très bête. Pour moi, le Canada, c'est trop froid.
D'accord.
j'aime pas les hivers et en plus, c'était une façon pour moi de découvrir le monde. Hein. Je voulais voir le monde. Donc... je suis arrivé en Europe, en plus mes origines sont en Europe, donc voilà. Quoi.
Tous les Américains, leurs origines sont soit en Europe, soit en Afrique, Mike, hein, d'accord.
Il y en a pas mal qui sont en Asie aussi.
Aussi, bien sûr, oui, bien, complètement.
Il y en a même beaucoup.
Là, on dit encore que l'Amérique, c'est le nouveau monde, hein, malgré que maintenant, ça y est, l'histoire de l'Amérique commence à avoir un petit peu de bouteille. Et alors, notamment en France, mais quels autres pays as-tu sillonné comme ça pendant 3 ou 4 ans ? L'Angleterre, un peu, non ?
En Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en Belgique, en Turquie, en Israël. Où est-ce que j'étais encore ? Moi, je ne sais plus. J'étais loin. Je bougeais beaucoup.
Tu as bougé beaucoup jusqu'en 74 où tu t'installes en France.
Et là, définitivement.
Ben oui, définitivement, parce que ça fait déjà un petit moment que tu es français d'adoption. Est-ce que tu es français pour l'état civil maintenant, Mike ? Oui.
Pas encore. J'ai renouvelé ma carte de séjour de 10 ans l'année dernière et le type, il me regarde, il se dit « Mais ça fait 46 ans que vous êtes ici, pourquoi vous ne prenez pas la nationalité ?» Et je dis « Oui, c'est peut-être une idée.
» Bon, et ça, c'était à la fin du mandat de Donald Trump. Mais maintenant que Joe Biden est revenu, est-ce que ça va te donner l'envie de revenir plus souvent ? Je sais que tu étais aux États-Unis il y a encore une quinzaine de jours.
Oui, j'étais là pour aider ma sœur. Mon père, il est très vieux, il a 93 ans et elle était tout seule avec lui depuis un an, depuis le Covid. Et puis, je voulais le soulager un peu, quoi.
Alors,
mais franchement, ouais. Franchement, c'est pas. Je vais pas là-bas avec joie. Hein. J'aime pas l'ambiance, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années, depuis que tu as quitté définitivement les États-Unis ? Qu'est-ce qui s'est passé de négatif pour que tu n'aies plus envie d'y retourner si souvent ?
Je trouve que les choses sont pas améliorées du tout depuis 50 ans. Ça fait que devenir plus grave au niveau de l'ambiance par rapport au racisme économique. Toutes les choses que j'étais pas d'accord avant, je suis encore moins d'accord maintenant. Voilà.
Pour prendre un exemple, est-ce que tu penses que un président comme Joe Biden aurait considéré différemment l'affaire George Floyd?
Bien sûr. Bon, pour moi, Joe Biden, c'est pas la panacée, hein, mais en face de Trump, je crois que Mickey Mouse aurait fait mieux. Joe Biden, il va pas sauver le monde, hein, mais bon, déjà, je trouve qu'il était relativement efficace depuis qu'il est là. Maintenant, dans le long terme, on verra ce qu'il fait. De toute façon, la politique américaine par rapport au monde, ça changera pas. Pas dans le fond, en tout cas.
Et puis, il n'est pas forcément bien, non. En tout cas, je retiens, Mickey est plus fort que Donald, pardon. Effectivement. Alors, on va parler un petit peu musique, parce que malgré que tu n'aies pas fait que ça, parce que à ton arrivée en France, tu vis de petits boulots, tu es artiste peintre, tu fais un tas de petites choses, et ensuite, tu n'as jamais vraiment lâché la guitare, tu finis par jouer... Si, tu as vraiment pendant...
Si, pendant 10 ans, je n'ai pas touché une guitare. J'ai fait du piano.
Oui.
J'ai fait du piano classique pendant plusieurs années, mais je n'ai pas touché une guitare pendant plusieurs années.
D'accord.
Et j'ai recommencé à jouer en 88 avec des potes à côté d'où j'habitais, et puis c'est parti de là, en fait.
Voilà, et c'est là que tu as créé la première version du Mike Green Band, je crois.
La première version, c'était un groupe qui s'appelait Dirty Grits. Mm-hmm. On était un trio acoustique, et puis... Au départ, c'était même pas une idée qu'on allait faire un truc professionnel. Hein. On était au chômage, on s'est dit on va faire trois rondes cet été en jouant dans les bars.
D'accord.
Et puis c'est parti. Je sais pas comment, mais on a fait 100 dates dans l'année, quoi.
Ah oui.
Et après, il y a eu l'intermittence. Et après, tout a évolué après ça, quoi.
Alors les musiciens de l'époque avec qui on remonte à 25 ans, vers 1995, ce sont des gens que tu vois toujours, que tu côtoies toujours, Mike ?
Quelques-uns, mais en amis, quoi.
Oui, bien sûr.
Il y en a quelques-uns avec qui je travaille toujours. Il y en a un en particulier. Et puis, sinon, d'autres qu'on se croise de temps en temps, quoi, en amis.
Alors après ce My Great Band, c'était une autre expérience avec un groupe qui mêle la musique africaine et le blues, qui s'appelait A Talking Tree, autrement dit un arbre qui parle, avec cet album que je n'ai pas pu entendre, qui est sorti en 2001, qui s'appelait Salt in the Rain. Tu possèdes toujours ce disque, au moins un exemplaire, Mike ?
Oui, j'ai un exemplaire. Le truc, il est épuisé depuis longtemps. Oui, il est sorti en 2001, je crois. J'ai un exemplaire à la maison et puis je l'ai sur l'ordi en fichier, quoi.
Alors il y a toujours tout plein de collaborations, que ce soit avec des groupes comme The Vagabonds ou The Immigrants, on en parlera tout à l'heure des Immigrants, Jersey Julie, Alain Michel, Tom Exiano, des gens qui viennent d'un petit peu partout, mais également d'autres Américains, Kelly Recker ou Terry Harmonica Bean. Comment se font toutes ces rencontres, toutes ces connexions? Ça se fait naturellement, ça se fait au hasard? Comment ça se passe?
Oui, en fait, généralement, c'était pas moi qui allais chercher tout ça. C'est arrivé, quoi, comme ça, des gens qui m'ont fait des propositions et qui ont suivi, quoi. Il y a eu des bons trucs dans l'ensemble, des choses qui m'ont fait avancer musicalement et humainement. Et puis, Et puis, bon, ça continue un peu. Hein. Je fais toujours des rencontres. Il y en a eu beaucoup de rencontres grâce à l'Internet, oui. Les réseaux sociaux. Je vais régulièrement jouer en Pologne, en Allemagne, et maintenant depuis quelque temps en Ukraine aussi. En Italie, avec des rencontres que j'ai faites sur Internet, en fait.
Oui, oui. Donc là, depuis, on va dire, une petite vingtaine d'années, c'est une autre façon de rencontrer des musiciens. Tu parlais, Mike, d'expérience musicale. Tu reconnais ça, forcément.
Ah oui.
Allez, on écoute quelques secondes. C'était du répertoire et puis c'était vachement original. On va rappeler le nom du groupe, Bulldog Gravy, le nom de l'album Big Bad Blues. Et puis Mike, on va rappeler les musiciens parce que c'était des gens voilà, absolument atypiques et extraordinaires pour la plupart d'entre eux. Philippe Sangara, Joey Brasi, Farid Kenfouf, Jérôme Laval, David Giancola et Jérôme Mingo. Mike, l'expérience Bulldog Gravy, c'est quelque chose qui t'aura marqué ou est-ce que ça aurait été un groupe comme les autres dans ta carrière ?
Ah non, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est le truc que j'ai fait qui m'a le plus touché, parce que c'était un vrai groupe. Chaque personne était aussi important que l'autre dans ce groupe. Et c'était construit d'une manière vraiment sympa. On a commencé en duo avec Philippe, et après il y a Jérôme qui est arrivé. En fait, il était à Paris, il jouait la batterie dans un groupe de death metal. Ah oui. Il est arrivé avec le front bas, et puis c'était assez rigolo notre rencontre. Et puis par la suite, il y a Jean-Louis qui a construit cette set de percus à la ferraille. Et Farid, c'était le bassiste de Talking Tree.
D'accord.
Et puis voilà, et David, il s'est rajouté. Au moment d'enregistrer l'album, on avait un copain qui voulait jouer de l'harmonica sur un morceau. Alors on a gardé la place pour lui. Mmh. Il n'est jamais venu. Et donc on a appelé David, Philippe connaissait David de notre groupe dans lequel il jouait avant. Et David s'est joué à nous comme ça. Et tout était comme ça. Voilà.
Donc voilà, c'était, on va dire, la fraîcheur, mais le feeling plus que la technique, on va dire aussi l'originalité et le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'être un vrai groupe, tu l'as dit, avec personne ne marchant sur l'autre.
Ah oui, 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 non, mais c'était vraiment
c'est ça. L'esprit,
c'était,
hein.
C'était une telle joie à chaque fois qu'on était sur scène, et je n'oublierai jamais, il y a David qui avait dit un jour après un concert, merde, c'est mieux que le sexe.
Bon, on veut pas savoir ce qui se passait après les concerts. Alors, combien de concerts avec ce groupe Bulldog Gravy, Mike?
Oh, je sais plus. On a quand même pas mal tourné. Mmh. On a fait quasiment tous les festivals en France et plusieurs festivals à l'étranger.
Ben oui, puis il y a eu le festival le Tremplin Blues sur scène, il y a eu également pas mal d'autres choses intéressantes comme l'International Blues Challenge de Memphis quand même.
Ben, on n'a pas été.
Non.
On n'a pas été. Non, non, non. Ils n'avaient pas l'argent de nous envoyer à l'époque.
Purée, oui, c'est ça. Il y avait la sélection, mais il n'y avait pas le pognon. Ouais. Ouais, ouais.
C'était la première année que c'était comme ça. Ah, ouais. Mais je me rappelle surtout du truc de Blues sur scène parce que c'est ça qui nous a fait vraiment connaître.
Ouais. Et il y a beaucoup de groupes qui disent ça, en fait, même parfois, 10-15 ans après. Le Tremplin Blues sur scène, non seulement ils s'en souviennent, mais en plus, c'est quelque chose qui a quand même carrément compté dans leur carrière. On va dire maintenant, depuis l'aventure, la fin de l'aventure Bulldog Gravy, que tu as repris une carrière solo. Est-ce que c'est ça ou pas tout à fait? Je pense que non, quand même. Hein.
Pendant un moment, je me suis mis à jouer en solo, ce que je n'avais pas l'habitude de faire, et c'était un peu un challenge. J'ai pris goût.
Ouais.
Bon, après, j'ai eu d'autres groupes, d'autres formations, mais de temps en temps, je fais des trucs en solo de temps en temps. Ça me fait plaisir, je joue des morceaux que je ne pourrais pas jouer avec les autres. En fait, quand je joue solo, je fais beaucoup de balades. En fait, j'adore les balades, j'en ai écrit, je pense, je pense que tout ce que j'ai écrit, les meilleurs morceaux que j'ai écrits, c'est des ballades.
On va écouter un petit extrait et je vais te demander de réagir juste après, si tu veux, Mike.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça que démarrait l'album des Immigrants avec ce titre Mountain Moan qui fait partie de tes compositions. On y trouve également le travail de tes collaborateurs de ce moment, Tomek Giano, et puis il y a également Alain Michel et Stéphane Rinaldi de Immigrants. Mike, c'est un groupe qui existe toujours ?
Non, on a arrêté il y a quelques années. Hein. Par contre, Alain et Stéphane, je continue avec eux dans une nouvelle formation de My Green Band. Il y a Alain et Stéphane, et puis il y a Philippe Lamprimont à la basse, et le grand Lorenzo Sanchez à la guitare.
Voilà, alors, Lorenzo Sanchez qui fait partie de la bande maintenant et avec qui tu te produis, mais ça n'est pas ton seul Mike Green Band, parce que je crois savoir qu'il y en a au moins un ou deux autres, avec des musiciens notamment allemands d'un côté et polonais de l'autre, c'est ça?
Oui, j'ai un groupe à Berlin sous mon nom, et puis j'ai un trio en Pologne aussi. Ouais.
Incroyable,
ouais.
Et comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? D'abord, c'est grâce à Internet, on est d'accord, mais pour répéter, enfin, tu répètes jamais, ou alors c'est, il faut voyager tout le temps?
En fait, on répète avant les tournées.
Ouais.
Quand je pars à Berlin, on répète la veille, on se trouve tous, et puis on fait une répète. On arrive à rajouter un nouveau morceau de temps en temps, et puis en Pologne, c'est pareil. J'arrive, on répète, j'ai un bassiste, c'est un copain, c'est un Américain qui vit là-bas.
D'accord.
Et puis le batteur, il habite tout à fait le fin fond de la Pologne, sur la frontière ukrainienne. Mm-hmm. Et on va chez lui, on répète aussi dans une salle de répète, et puis on part en tournée.
Alors,
ce qui est bien en Pologne, en fait, c'est quand on fait une tournée en Pologne, on joue en gros 5 jours par semaine.
Ben c'est justement la question que j'allais te poser, parce que pour l'Allemagne, on n'est pas trop inquiet, on a pas mal d'écho de ce côté-ci, on sait que les gens adorent le blues. Par contre, en Pologne, je me posais vraiment la question, c'est pareil en fait.
Ah oui, il y a un super public pour le blues en Pologne. C'est comme ici, hein, c'est pas énorme,
oui.
Mais c'est des gens très fidèles à ce style de musique, et c'est toujours plein, tous les clubs, tous les bars, tous les lieux, les festivals, c'est toujours plein.
Les musiciens américains qui passent dans Sweet Home Chicago me disent souvent que le public français est particulier par rapport au reste de l'Europe. Est-ce que tu partages cet avis?
Je ne sais pas. je ne pourrais pas te le dire.
Dans la mesure où certains me répondent parfois qu'il y a chez le spectateur français beaucoup plus de qualité d'écoute, et puis pour ceux qui adorent le blues, en tout cas, une connaissance très pointue de la musique, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, m'a-t-on dit.
Ça je suis d'accord.
Mm-hmm.
Ça je suis d'accord, parce qu'en fait la musique est tellement populaire aux États-Unis, c'est tellement, intégré chez les gens, qu'ils ne se soucient pas vraiment d'avoir des connaissances encyclopédiques sur la musique, quoi.
Voilà.
C'est leur culture.
C'est ça, en fait, c'est en deux.
Ce que je trouve en France, c'est pas un reproche, mais je trouve que quelque part, il y a un côté un peu académique,
mm-hmm.
parce que je vois tous les Français qui peut étaler une connaissance encyclopédique du blues, de l'histoire du blues, que je trouve très bien. Et je trouve que les Français, à la limite, ils s'intellectualisent un petit peu.
Oui, peut-être qu'on profite mieux de la musique en sachant un tout petit peu moins, Mike, c'est ça?
Je ne sais pas. Je ne donne pas de qualification à la chose. Mais ce que je remarque en France, effectivement, c'est cette connaissance académique de la musique que je ne trouve pas ailleurs.
Et aux États-Unis, alors j'ai l'impression qu'il y a des musiciens dans toutes les familles. Enfin, en France, il faut peut-être faire 99 familles pour trouver la centième dont le grand-père avait fait du clairon dans les années 32. Compliqué, le rapport entre l'instrument, entre le fait d'être musicien et le fait d'être français. Enfin, en tout cas, c'est ce que beaucoup de gens ressentent. Est-ce que toi, tu le ressens aussi, Mike ?
Ah oui, oui. J'ai toujours trouvé que le France... Bon, c'est pas une critique du tout. Hein. La France, c'est pas un pays avec une culture musicale populaire profonde. C'est un pays avec une culture littéraire et qui est beaucoup plus riche que beaucoup d'autres pays à ce niveau-là. Mais par rapport à la musique, il y a la chanson française qui est très riche, mais quand tu rentres dans les musiques populaires comme le rock et le blues, c'est très difficile, rien que la langue, ça devient très difficile parce que, bon, c'est technique ce que je veux dire, mais tu as une métrique dans cette musique-là, tu as a priori, tu as 4 temps dans une mesure, et pour dire en 4 temps ce qu'on dit en anglais, il faut peut-être 3 mots de plus pour dire la même chose en français.
D'accord.
Donc le nombre de syllabes qu'on va débiter sur une mesure de 4 temps, c'est vachement difficile.
Oui, voilà.
Vous avez beaucoup plus d'articles et beaucoup plus de trucs explicatifs entre les mots que nous. On a une langue assez basique par rapport au français.
Bah, c'est vrai, ne serait-ce que la conjugaison. Vous avez 3 temps, passé, présent, futur, terminé. Et puis, chez nous, voilà.
Et pour dire un truc avec 3 ou 4 mots en anglais, il en faut 5 ou 6 en français.
C'est ça. Alors nous, chez nous, les Français, on se défend en disant « ça, c'est la richesse de la langue, c'est le fait d'avoir beaucoup de synonymes, au risque de noyer tous les étudiants et tous les élèves, bien sûr, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, voilà, peut-être qu'apprendre le français pour un Américain est plus difficile que le contraire.
Je sais pas. En fait, moi, quand j'arrivais en France, je savais que j'allais vivre ici. J'étais motivé et j'étais jeune. Et ma femme, à l'époque, elle m'a dit que j'ai appris à parler pas trop mal au bout de 6 mois.
Ouais.
Et c'est vrai, je me suis plongé dedans. J'étais pas avec des gens qui parlaient anglais. Et j'ai appris assez rapidement. Donc, j'ai pas trouvé une difficulté particulière.
Mais par contre, tu as gardé cet accent américain et tu n'as pas du tout attrapé celui du Sud-Est, Mike.
Ah non, non. Mon fils aîné, lui, il a l'accent d'Avignon. Hein.
D'accord, voilà.
Et l'autre, il limite. Il n'a pas, mais il limite bien.
On va revenir tout à l'heure sur tes projets actuels et puis tout ce qui te fait vivre en 2021, Mike. Mais avant, je voudrais qu'on revienne sur l'un des titres que tu m'as fait parvenir. Ça s'appelle « Nowhere to Hide ». On se retrouve juste derrière.
D'accord.
I can't see myself. Sometimes when I look in the mirror, I can't see myself. I don't see nobody, I don't have a name, and I feel so guilty, but I'm not to blame. Destruction overtaking me. It's a world of trouble without an end. I'm gonna bend down to my
try to make conversation. I ain't got nothing to say. Maybe someday things will go my way. Until that day comes, it's the same thing every day.
Nowhere to hide, Mike Green, Michael J. Green est au téléphone toujours. Ça va, Mike?
Oui, ça va. Oui.
On vient d'entendre ce titre qui a été tout nouvellement enregistré. Tu peux nous rappeler les musiciens qui figurent avec toi?
Oui, c'est le Mike Green Band actuel. C'est avec Alain Michel à l'harmonica.
Lorenzo à la slide, c'est ça? Hein?
Lorenzo Sanchez à la guitare. Philippe Dandrimont à la basse. Et Stéphane Rinaldi à la batterie, voilà.
Voilà, et puis tu m'avais envoyé également d'autres titres avec ton groupe allemand, et tout ça, ça va peut-être figurer sur un album. Est-ce que tu penses sortir un disque cette année, Mike?
Le groupe allemand, on a un album qui circule principalement en Allemagne, qui était enregistré en live, carrément. Et puis sinon, oui, on avait le projet avec Lorenzo et Alain de enregistrer un album ici en France. Mmh. Maintenant, avec toute l'ambiance qu'on a, tout est en stand-by. Hein. Tous les projets actuellement sont au point mort. Hein.
Ça m'amène effectivement à la question suivante. On a pu te voir récemment, et tu le fais régulièrement sur Facebook, pour un Facebook Live où tu es tout seul et tu fais des reprises, des morceaux également qui font partie de ton répertoire. Comment est-ce que tu vis ça, le fait de te produire devant tes fans en solo, finalement, dans ton salon, c'est ça, hein?
Oui, c'est une façon de garder la main un peu, quoi, ouais, et puis de rester en contact avec pas mal d'amis qui sont un peu partout. Et puis moralement, oui, ça m'aide un peu à tenir le coup, parce que bon, moi je suis un peu je suis un musicien, hein, j'ai besoin de jouer.
Oui.
Et puis j'ai un peu nomade aussi, et j'ai besoin de bouger. Mmh. Et ces deux choses là ça me manque. Ça me manque, c'est mon raison d'être.
La raison d'être d'un musicien, c'est de jouer à travers le monde, comme tu le fais, et puis de continuer à composer. C'est des choses qui t'ont inspiré, le Covid, la crise sanitaire?
Non, ça ne m'a pas inspiré du tout.
Non, au contraire, bon.
Non, c'est plutôt le contraire. Moralement, le premier confinement s'est bien passé, mais là, on n'est même pas confiné, mais je trouve que c'est encore pire.
Mike Green, musicien, c'est pas seulement le guitariste, c'est aussi le banjo, la mandoline, l'accordéon, tu en as parlé tout à l'heure, le piano, le chant évidemment. Tous ces instruments-là, tu continues à les pratiquer régulièrement ou pas forcément?
Pas forcément. Par contre, demain, je vais aller chercher un piano parce que comme je peux pas faire grand-chose, je me suis dit que j'allais me remettre au piano là. Donc je vais chercher un piano électrique demain.
D'accord, très bien.
Puis sinon, le mandoline et l'accordéon, le banjo, c'est vraiment occasionnel maintenant. J'avais fait de l'accordéon et la mandoline sur un album ou deux où j'avais fait figure de guest pour Magic Box. Mm-hmm. Mais oui, j'aimerais bien faire plus d'accordéon, en fait, ça me manque.
Magic Bug, qui fait partie des gens avec qui tu as joué, on pourrait parler aussi d'un très bel harmoniciste qui s'appelle Youssef Rebadna, avec qui tu as enregistré un superbe album qui s'appelait Take It On, je crois que c'était vers 2014, c'est ça, Mike?
Oui, 2014, je crois, ou 2015, je ne sais plus.
Et donc, il y avait là-dessus des choses très sympas, comme I'm Ready de Willie Dixon, ou Come Back Baby, qu'on va entendre tout à l'heure dans une autre version de Ray Charles. Il y a également du J.B. Lenoir, du Rice Miller, du Bob Dylan, et puis du Mike Green, avec Same Old Blues, par exemple. Cette collaboration avec Youssef Rebadna, elle n'est pas tout à fait terminée, si?
Oh bon, au contraire, là on est à fond tous les deux.
Voilà.
Ça fait 8 ans qu'on bosse ensemble et ça fait presque 30 ans qu'on se connaît avec Youssef. Mmh. Et oui, non, moi, je fais la plupart de mes dates dans l'année, c'est en duo avec Youssef. Hein. Et là, on est très frustrés tous les deux. On s'appelle assez régulièrement pour dire, ah, putain, quand est-ce qu'on va recommencer à jouer, quoi.
Et vous habitez loin de l'autre ou pas?
Pas trop. Enfin bon, il est à Briançon, c'est à 3 heures de route de chez moi, c'est à 200 bornes.
Oui, oui,
c'est l'occasion. Donc on se retrouve facilement.
C'est ouais. L'occasion d'un week-end, effectivement, pourquoi pas de temps en temps. Voilà, donc des conditions difficiles. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Mike Green pour l'année 2021? Bien sûr, la levée des barrages, hein, j'ai envie de dire, mais quoi de plus? Alors, la sortie de deux albums, la même année, pas forcément. Qu'est-ce qu'il faut
pas
te souhaiter?
Pas forcément, non, pas forcément. Moi, je suis pas... surexcité à faire des albums, si tu veux. Par contre, je veux vraiment recommencer à jouer, quoi. Ouais, ça ouais. Me manque trop de tourner, de bouger, puis de jouer avec mes potes.
Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens qui veulent t'écouter, s'ils veulent par exemple assister à un Facebook Live ou alors acheter tes albums? Il faut te retrouver sur Internet. De quelle façon, Mike? Ce sera ma dernière question.
Écoute, les Facebook Live, c'est sur ma page, Michael J. Green.
D'accord.
Sur Facebook.
Voilà.
Généralement, c'est les mardis 17h. Voilà.
Très bien. Mardi 17h, on prend rendez-vous.
Et puis, on peut me contacter sur Facebook. Ça, c'est facile.
Très bien, Mike. Écoute, merci pour tout ça. On va continuer à écouter ta musique encore un petit peu, notamment à travers cet album Take It On. Moi, j'ai envie de te dire Hold On, Mike.
Merci, Marc.
À très bientôt.
Oui.
Sur la route du blues.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Mike Green et Youssef Rebana à travers cet album de 2014 qui s'appelait Take It On. Il me reste quelques secondes pour vous faire écouter un extrait de Come Back Baby, nouvelle version par Monsieur Mike Green. Pour découvrir l'univers de Mike Green, vous pouvez aller tout simplement sur sa page Facebook. Vous tapez Michael J. Green, M-I-C-H-A-E-L-J-J-A-Y-Green, G-R-2-E-N-E. Et puis, ben voilà, vous arrivez directement. Et comme je vous l'ai dit, rendez-vous mardi à 17h pour son prochain Facebook Live. Et puis, on va le suivre, bien sûr, pour la sortie de cet album dont on vient d'entendre un extrait, voilà, en avant-première. On poursuit avec le disque du mois. C'est toujours Selwyn Birchwood avec Living in a Burning House. Selwyn Birchwood, ici, avec un nouveau titre. Ce sera le dernier pour aujourd'hui. She's a Dime.
Smiling at her eyes, already got my nature rising. The way she switched them thighs, you know she got me hypnotized, yeah. My baby got so much sweetness, the way she give me diabetes. And when she walking down the street, yeah, breaking necks from people peeping. She's a dime, my baby, she's a dime. She ain't no 6'7", 8 or 9, she's mine, oh mine. She's a dime, my baby, she's a dime. mine, oh mine.
If good looks could kill, she'd be tried for genocide. And if being fine was a crime, she'd be doing double life. So brighter than all the stars and all the galaxies above, she's hotter than a thousand suns exploding all at once. She's a dime, my baby, she's a dime.
The Dime, extrait de ce disque du mois, Selwyn Birchwood. On retrouvera Selwyn Birchwood, bien sûr, au cours des deux prochaines émissions du mois de février. Mais en attendant, voici une vieillerie. Je sais que vous l'attendez tous. Ça fait déjà un moment que je vous avais parlé de Rory Gallagher. Le revoici en version acoustique dans Irish Tour 74. Voici Rory Gallagher, As the Crow Flies, une reprise de Tony Joe White. Voilà, c'est mieux comme ça. On est en 1974 avec Rory Gallagher.
It's a bit of acoustic and a tune you might not hear. This one is by Tony Joe White. It's one of his songs called As the Crow Flies. Hope you enjoy it. Well, I ain't so far from you. As the crow flies, baby. Well, I ain't so far from you. But since I don't have wings, I can get home as fast as I want to. As I want to. In a dream last night, well, I heard you call my name. In a dream last night, well, I heard you call my name. And I took it as an omen. Very fast freight train. Yeah, yeah, yeah. Now the crow flies. We'll be right back.
how I miss your sweet caress. When I'm in your loving arms, that's when I'm at my very best. As a crow flies, babe, that's how I'm on my way. As a crow flies, babe, I'm on my way. If I don't stop running, I can get home for the break of day. Get home for the break of day. Get home for the break of day. Get home for the break of day.
Monsieur Rory Gallagher, on est en 1974, avec le public de l'époque, bien sûr, Irish Tour 74. C'est pas le dernier morceau de cette émission, puisque là, c'était la rubrique vieillerie, mais là, on va entamer aujourd'hui cette rubrique qui va, je l'espère, durer toute l'année 2021. 50 Years After, les albums sortis en 1971. On est dans l'actualité d'il y a 50 ans avec Statesboro Blues, live at Fillmore East, The Allman Brothers Band. C'est avec ça qu'on se quitte et on va se retrouver, allez, avec votre serviteur aux manettes et Dan Zirotti au micro pour le numéro 4 de Moonshade Blues dans 3 minutes. En tout cas, nous pour Sweet Home Chicago, on se retrouve samedi prochain avec Lenny Lafargue. Salut, bye bye.